Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour à tous. Alors, la loi sur l'immigration est en discussion. Bien sûr, qu'est-ce qu'on va en attendre en cette période troublée ? On verra. Pour l'instant, comme le dit le générique de Nous n'avons qu'une terre, on patiente. D'ores et déjà, pour tout ce qui concerne la loi et l'histoire des statuts, immigrés, étrangers, réfugiés, y voir plus clair dans les discussions, je vous renvoie au podcast Allume la science sur l'immigration qui a été fait dans la rubrique Culture de Divergence FM. Mais aujourd'hui, une citoyenne est à nos côtés. Elle est sensible au manque d'écoute des pouvoirs et des peuples. Elle est témoin d'un fossé qui se creuse de plus en plus avec les plus démunis. Bonjour Monique, c'est Rochaïbi.
Bonjour Dominique.
Alors, vous êtes depuis bien longtemps sur tous les fronts possibles. De l'engagement contre l'exclusion et le racisme, l'animation d'associations, des débats, des témoignages. Vous êtes écrivaine. Vous avez publié combien de livres et depuis combien de temps vous écrivez ?
Ça va être un peu rapide. J'écris depuis toujours. J'ai écrit, quand j'étais enfant, j'ai écrit jusqu'à ce qu'une surveillante tombe sur mes écrits et les lise à toute la classe. J'ai arrêté d'écrire pendant pas mal de temps. C'est ce qu'on appelle un meurtre en écriture. Mais j'ai continué la correspondance toute ma vie.
Est-ce qu'elle l'a compris, elle ?
Non, je crois pas. Mais du coup, je me suis remise à écrire grâce... Quand je suis arrivée à Montpellier, il y a 22 ans, j'ai fait partie d'ateliers d'écriture. Ça m'a remis le pied à l'étrier. Alors, un atelier d'écriture, c'est pas fait pour apprendre à écrire. C'est fait pour encourager à écrire. Donc, j'ai peu publié. J'ai publié une pièce de théâtre qui a été jouée. Je publie régulièrement dans la revue de l'édition Chèvrefeuille étoilée qui est sur Montpellier. Et j'ai initié 2 recueils pour SOS Méditerranée. L'un qui s'appelle « Au cœur de l'errance » où il y a 55 écrivains qui ont donné des textes et 14 illustrateurs. Et puis on a fait avec Agnès de France qui est la co-référente de SOS Méditerranée. On a aussi fait la même chose mais pour les jeunes entre 9 et 13 ans à peu près. Et ça s'appelle « Ce qu'il reste de nous ».
Alors, bien sûr, on vous connaît, c'est important pour vous d'écrire, on le sent, et on vous connaît surtout pour votre engagement dans SOS Méditerranée. Et d'ailleurs, c'est à ce titre que je vous ai demandé de pousser la porte de Divergence FM. Alors, depuis combien de temps agit SOS Méditerranée et en quoi cette association devient chaque jour plus importante ? Comment agit la branche héraultaise sur cette question méditerranéenne ?
Alors, je vais repartir au début de votre question. En 2013, il y a eu un naufrage immense au large de Lampedusa. Il y a une personne qui était sur un bateau qui a voulu alerter les côtes qu'ils étaient en danger. Il a brûlé son t-shirt ou je ne sais quel tissu. Ça a provoqué un incendie. Il y a eu 360 morts à peu près. Ça a bouleversé l'Europe à tel point que l'Italie a mis au point une opération qu'elle a appelée Mare Nostrum, qui est le nom de la Méditerranée. En 11 mois, l'Italie a sauvé 150 000 personnes, sauf qu'elle était seule, et que, deuxièmement, elle s'est fait accuser d'appel d'air. Vous savez, appel d'air, c'est quand on dit « s'il y a des bateaux de sauvetage sur la mer, ça va inciter les gens à prendre la mer ». C'est aussi idiot que de vous dire « on va construire un hôpital en face de chez vous, donc profitez-en pour être malade ». Donc la preuve que l'appel d'air, c'est une fausse idée, c'est qu'en 2015, quand il n'y a plus eu de bateau, ça a été une hécatombe en Méditerranée. Et c'est là qu'est née l'idée d'SOS Méditerranée, grâce à Klaus Vogel, qui est un marin de marine marchande allemand, et à Sophie Beau, qui est une humanitaire française. Donc en 2015, il a fallu trouver des fonds, il a fallu trouver un armateur qui nous confie son bateau, qui nous loue son bateau. Ça a été l'Aquarius. Donc le premier départ de l'Aquarius, ça a été en février 2016. Et jusqu'en décembre 2017, ça a été le bateau de SOS Méditerranée. Alors, je reviens aussi sur le fait que SOS Méditerranée est une association donc, européenne qui comprend l'Allemagne, la France, l'Italie, la Suisse. Elle est citoyenne. Elle est apolitique et elle est aconfessionnelle.
Alors, on aura l'occasion de toute façon d'en reparler. Pour l'instant, restons donc sur ce voyage qui va conduire un certain nombre de personnes jusqu'à la Méditerranée. Alors, il y a eu un concert, des voix d'écrivaines, d'écrivains, de poètes, des représentations théâtrales, des expositions. Enfin, tout est important pour rassembler des fonds, finalement, et sensibiliser au racisme. Donc, depuis 2014, puisque c'est peu de temps après l'incident dont vous venez de parler, au moins 25 000 personnes sont mortes en Méditerranée centrale en tentant de rejoindre l'Italie.
Ça, ce sont les chiffres officiels.
Ce sont les chiffres officiels. Et donc, faisant de cette route vers l'Europe l'une des plus meurtrières du monde. Mais on sait, et cependant, avant, et on sait beaucoup moins de choses de tous ceux qui sont morts pour parvenir jusqu'aux rives de la Méditerranée.
Voilà, ils sont morts en chemin, soit ils ont été assassinés, soit ils sont morts pour d'autres raisons, soit beaucoup, il faut savoir qu'il y a presque deux fois plus de morts pendant la traversée du désert, ou en Libye, où on les maintient en esclaves, on les vend comme des esclaves, et on les torture, on viole les femmes et tout. La plupart, quand on les récupère, parlent de l'enfer libyen.
Alors, justement, vous avez récemment œuvré pour soutenir l'exposition de Yann Koumba-Badji, qui était témoin de ce mortel voyage, et qui a donc peint et lancé sur Montpellier l'exposition Renaître. Donc, avec le festival Watertrip, la Maison des Relations Internationales de Montpellier, et votre antenne bénévole et héraultaise de SOS Méditerranée, vous vous êtes associés pour accueillir donc l'exposition de peinture Renaître de Yann Koumba-Badji, artiste peintre, qui est aussi le héros d'un film, et puisqu'on l'appelle Tilokoto, ce film, qui veut dire sous le soleil. Alors, malheureusement, la radio ne permet pas de partager l'œuvre de Yann Koumba, qui témoigne de l'horreur de ses périples. Alors surtout, moi, ce que j'ai retenu en la visionnant, c'est ses visages, ses corps, les yeux. Des yeux dans la nuit, des yeux dans la souffrance du viol et des tortures que vous venez d'évoquer. Les yeux de bonheur momentané quand on retrouve le petit restaurant clandestin. Les yeux effarés dans les canaux surchargés où on les voit coincés les uns contre les autres. Enfin, des yeux fermés à jamais, des corps flottants dans cet immense cimetière qui est devenu la Méditerranée. Alors, lui-même a vécu ce voyage. Quatre fois, il a tenté de traverser.
Il a fait quatre tentatives. Donc, lui, il vient de Casamance. Il a fui la Casamance parce qu'il y a eu une guerre à un moment. Il s'est retrouvé en Gambie où la situation n'était pas meilleure. Donc, il a tenté à quatre reprises la traversée. Dans ses tableaux, on voit même un tableau où il raconte sa propre traversée du désert, où il a eu une chance extraordinaire, c'est qu'il se retrouvait... Enfin, au départ, ce n'était pas une chance. Le camion dans lequel il était a eu une avarie. Et ils se sont retrouvés à 35 dans ce camion sans que personne ne vienne les aider. Il a pris l'initiative de traverser le Sahara tout seul. Et le lendemain, il s'est retrouvé devant un autre convoi. Il a demandé au chef du convoi s'il pouvait monter dans le véhicule. L'autre a accepté à condition qu'il paye, mais bien sûr, il n'avait plus d'argent puisqu'il avait tout donné au passeur précédent. Enfin. Donc, il a eu l'idée de lui dire « si tu me vends en Libye, tu n'as qu'à me prendre, comme ça tu paieras mon voyage avec le prix de ma vente ». C'est comme ça qu'il s'est retrouvé en Libye. Donc, après, il s'est retrouvé, comme tout le monde en Libye, avec les conditions qu'on connaît. Et puis ensuite, il s'est retrouvé en Tunisie, dans un camp qui n'était guère plus agréable. C'était dans la région de Zarzis. Et c'est là que l'on rencontrait les deux cinéastes qui ont fait le film Tilokoto. Au début, elles y allaient pour un film sur les gens qui étaient là. Sauf que la personnalité de Yann Koumba les a tellement touchées qu'elles ont décidé de faire ce film, d'axer ce film sur lui. Et quand elles sont reparties avant de faire le film, elles ont demandé à Yann Koumba ce qu'il voulait. Il a dit « Je veux de la peinture, je veux des tableaux, je voudrais peindre. » Parce que dans sa jeunesse, il avait aidé quelqu'un à la peinture, donc il aimait la peinture, même s'il l'avait abandonnée. Et comme il ne pouvait pas s'exprimer par la parole, à ce moment-là, il a décidé de s'exprimer par la peinture. Et donc, en s'exprimant par la peinture, il s'exprime au nom de tous les autres qui ont fait le même trajet que lui, qui en sont morts ou qui ont été sauvés. Et puis, c'est aussi une façon de dire aux autres, ne faites pas ce qu'on a fait, ne partez pas.
Et voilà, alors on va là-dessus. Donc maintenant, Yang Nba est à Paris, puisqu'il il a obtenu une bourse. Il continue à vouloir témoigner, parce qu'il dit que s'il avait su, peut-être, enfin, il ne serait pas parti. Donc son projet, c'est de monter en Casamance un lieu où il pourra informer les jeunes de tout ce qu'il a vécu, et en diffusant ce témoignage, éviter justement des départs, et éviter des traversées mortelles. Faire. Alors, effectivement, on a eu un petit interview, enfin, il y a un grand interview plutôt de Jean-Pierre Lacan, qui est le secrétaire de SOS Méditerranée dans la Gazette de la semaine dernière. Et en fait, on s'aperçoit que ce que vous disiez tout à l'heure, il y a des gens qui ont accusé SOS Méditerranée d'être un appel d'air. Hein. Alors, lui dit que ben, non.
Non, ce n'est pas le cas, parce que la plupart, et Yang Kuba en parle dans une interview qu'il a faite, il dit que beaucoup ne savent pas ce qui va se passer, ne savent pas qu'ils vont se retrouver en Libye ou qu'ils vont être jetés à la mer, et surtout ne savent pas qu'il y a des bateaux pour les sauver. Il ne faut pas croire que dans les villages, tout le monde est au courant de ce qui se passe. Donc non, ça c'est faux. Et en plus, si vous voyez par exemple cette année, cet hiver, quel que soit le temps, qu'il y ait ou non des bateaux qui pourraient venir les sauver, les gens sont partis. Il y a eu beaucoup plus de départs cette année et beaucoup plus de morts.
Alors justement, la première question qu'on se pose, c'est quel rapport il y a entre l'histoire de ces migrations et le réchauffement climatique, puisque nous sommes une émission consacrée au développement durable. Et le réchauffement climatique, vous venez de le dire, incite les gens à partir.
Parce que si nous, on trouve déjà qu'il fait trop chaud l'été, imaginons en Afrique ce que ça peut être. La période de sécheresse est de plus en plus longue. Donc, il y a la famine, il y a tout ce qui va avec un climat trop, trop intense. Donc, les réfugiés climatiques, on en aura encore pendant longtemps.
Alors, François Gémen, qui est directeur de l'Observatoire Hugo à l'Université de Liège, qui est spécialiste des questions de géopolitique de l'environnement, qui est rédacteur du GIEC également, qui est politologue et qui est l'auteur de l'Atlas des migrations, il va nous en dire plus. Alors, après avoir tenté, il a tenté de faire des réfugiés climatiques une catégorie reconnue. Bon, c'est ce dont je parlais un petit peu au début de l'émission. Vous en saurez davantage en écoutant le représentant, enfin le responsable scientifique dans Allume Science, qui lui retravaille sur chacun de ces concepts en ce qu'on appelle un réfugié, un immigré, etc. Il a accepté, par contre, le fait que le réchauffement venait s'ajouter à de nombreux autres facteurs qui conduisent à prendre la route. Et donc, plutôt que de se battre pour obtenir le droit de réfugié climatique, eh bien, il explique et il nous demande de prendre conscience de ce phénomène.
On appelle réfugiés climatiques l'ensemble des personnes qui doivent quitter leur maison ou quitter leur terre à cause de dégradations de leur environnement qui sont liées au changement climatique. Alors ça peut viser des dégradations de l'environnement très différentes et très diverses. Par exemple, il y a évidemment la hausse du niveau des mers qui va faire qu'énormément de gens qui habitent sur les côtes ou sur des petites îles vont devoir déménager de façon permanente, se replier à l'intérieur des terres. Il y a aussi la dégradation des sols qui est notamment liée à la baisse des précipitations qui fait que beaucoup de familles qui tirent leurs revenus de l'agriculture doivent envoyer à la ville généralement un fils dans l'espoir qu'il trouve un boulot et qu'il puisse lui envoyer une partie de ses revenus. Et puis évidemment, il y a les catastrophes qui sont liées au climat, les inondations, les sécheresses, les ouragans, les glissements de terrain. Chaque année, ces catastrophes liées au climat déplacent davantage de personnes que de personnes déplacées par des guerres ou par des violences. Et donc, alors qu'on parle souvent des réfugiés climatiques comme un risque qui pourrait se produire dans un futur lointain, c'est déjà une réalité présente aujourd'hui, et déjà aujourd'hui, des millions de personnes sont déplacées chaque année en raison de dégradation de leur environnement. et elles sont déplacées selon des modes très différents. Certains vont et viennent entre la campagne et la ville, certains doivent partir dans l'urgence et ne reviendront plus, d'autres au contraire peuvent décider de partir, ce qui est aussi pour eux une façon de pouvoir s'adapter aux impacts du changement climatique. Mais en réalité, les motifs de migration aujourd'hui sont très liés les uns aux autres et s'influencent mutuellement. Et donc plutôt que de faire des réfugiés climatiques une catégorie spécifique, qui d'ailleurs n'aurait pas beaucoup de sens, puisque ces personnes ne sont pas des réfugiés dans le droit international et que la plupart migrent à l'intérieur des frontières de leur pays et souvent sur de courtes distances, plutôt donc que d'en faire une catégorie spécifique, je pense qu'il est plus intéressant d'essayer de comprendre aujourd'hui comment le changement climatique influence les motifs de migration, que ces motifs soient économiques ou politiques. Par exemple, beaucoup de gens tirent leurs revenus de l'agriculture, ça veut dire que les motifs économiques et environnementaux, en réalité, ce sont les mêmes. De la même manière, l'environnement peut engendrer des crises politiques ou des tensions, et là encore, on voit que les motifs environnementaux et politiques s'influencent mutuellement. En réalité, plutôt que de faire une catégorie séparée de réfugiés climatiques, je pense que c'est plus intéressant d'essayer de voir de quelle manière le changement climatique va transformer les comportements et les dynamiques de migration.
Alors, Monique, que vous inspire ces propos, ce choix qu'a fait Gémen aujourd'hui ?
Dans son discours, il explique bien que tout est lié. Oui, tout est lié, parce que tous ces gens qui viennent à nous, effectivement, viennent. Il y a plein de raisons. Il y a des guerres, des dictatures. Pour les femmes, il y a des excisions, des mariages forcés. Il y a l'homophobie, l'albinophobie, tout ça. Mais il y a effectivement de plus en plus de gens qui viennent pour des raisons climatiques. On a déforesté. Nous, on a beaucoup apprécié les bois exotiques à un moment. Donc tout ce qui fait qu'on a abîmé la planète un peu partout, ça engendre une modification climatique qui va nous mener à recevoir de plus en plus de gens pour ce motif-là.
Alors, par exemple, au Pakistan, on a encore 10 millions de personnes qui sont toujours privées d'eau potable après les inondations de l'an dernier. On a partout des déplacements transnationaux qui se produisent à cause des conflits, à cause de la violence. On estime à 33,4 millions le nombre de déplacements internes en 2019, à 145 le nombre de pays et de territoires qui sont concernés par ces migrations, et la majorité d'entre eux a été causée par des catastrophes naturelles. Alors parmi les pays les plus touchés, il y a l'Inde, bien sûr, dont on parle souvent, avec 5 millions, les Philippines, Bangladesh. 4 millions, le Bangladesh, 4 millions également, la Chine, 4 millions. Enfin, donc, on a tous les pays aussi. On n'a pas que l'Afrique, on a aussi tous ces pays d'Asie. Alors, pour l'instant, il n'existe aucune convention reconnue internationalement. On l'a vu, qui concerne les migrations climatiques. Alors, vous vous heurtez en plus à quelque chose de très nouveau, puisque, avec ce qui se passe, par exemple, en ce moment, en Italie, c'est-à-dire que non seulement c'est difficile de partir, mais en plus de ça, c'est difficile d'arriver sur l'Europe, parce que de plus en plus, les conventions européennes ne s'appliquent pas ou s'appliquent mal.
Alors, effectivement, alors pour en revenir à l'Italie, il faut savoir deux choses. Effectivement, en ce moment, l'Italie est sous un gouvernement d'extrême droite avec Meloni, qui non seulement s'attaque aux migrants, mais aussi à l'avortement, enfin, à plein d'acquis, donc qui montre un retour à une espèce de fascisme. Mais il faut aussi penser que l'Italie, j'ai dit tout à l'heure qu'en 2014, c'était l'Italie qui s'était chargée de Mare Nostrum. On a une médecin légiste qui, à un moment, avec son équipe, a tenté de retrouver sur le fameux naufrage qu'il y a eu à Lampedusa, on a retrouvé le bateau. Elle a tenté pendant des mois de trouver les noms des cadavres qui étaient dedans pour que les familles puissent faire le deuil de leur... Donc il y a plein de gens, il y a eu le maire, l'ancien maire de Lampedusa, il y a le maire de Riace qui risque 13 ans de prison pour avoir aidé des gens. Il y a plein de gens en Italie qui sont des gens bien.
C'est quelque chose sur lequel on peut encore se mobiliser d'ailleurs.
Mais complètement, oui, c'est important. Oui.
Qu'est-ce qu'il a fait exactement ce maire ?
Alors il y a eu des Kurdes qui sont arrivés sur dans sa commune, enfin voilà. Et le village était plus ou moins en train de se déserter. Donc, il a fait revivre ce village grâce à ces personnes. Parce que ce qu'on ne dit jamais, c'est que ces gens qui arrivent peuvent nous être utiles. L'Europe vieillit, on a de moins en moins de naissances, on a des villages, même l'été dernier, j'ai parcouru une partie du sud, j'ai vu plein de villages où les boulangeries, les cafés, les écoles sont fermées et tout. On a besoin de gens, on a besoin de ces gens-là. Et en plus, si on calcule qu'on a à peu près 450 millions de personnes dans l'Europe, ça ne fait même pas une personne par village qui arrive. Quand on nous parle d'invasion, c'est complètement faux. Les médias nous trompent sur la réalité.
Alors, donc, peut-être parce qu'elles sont mal informées aussi.
Oui, on va dire ça comme ça. Ou parce que ça permet de se pencher sur un problème et d'oublier qu'il y en a d'autres qui sont plus importants aussi. Et alors, il y a aussi une chose qu'on nous reproche et qui est totalement fausse. On nous dit qu'on est, en relation avec les passeurs, qu'on favorise les gens à venir. C'est totalement faux. L'association, donc j'ai parlé de l'Aquarius tout à l'heure, il y a un autre bateau maintenant qui s'appelle Ocean Viking. L'association ne fait que de respecter la loi de la mer. La loi de mer qui veut que quand il y a un bateau qui est en perdition, on doit sauver les personnes qui sont dessus, que ce soit de n'importe quelle nationalité, n'importe quelle religion. On doit sauver les gens. Il ne devrait même pas y avoir une loi, c'est humain, quoi.
Cette loi de mer, justement, est-ce que tout le monde, enfin toute personne qui prend la mer, se doit de la respecter?
C'est ça, tout à fait. Dès qu'on sait ou qu'on voit qu'un bateau est en danger, on se doit d'aller à son secours. Bien sûr, si on a un voilier, on ne peut pas, mais on prévient les secours, on reste sur place jusqu'à ce que quelqu'un vienne les sauver. C'est une loi et c'est normal. Si vous êtes au bord de la route, que vous voyez quelqu'un de blessé, vous allez appeler une ambulance ou vous allez faire en sorte, sinon c'est non-assistance à personne en danger. C'est exactement la même chose. On est une ambulance de la mer, c'est tout. Et on ne s'occupe que d'aller chercher les gens qui sont en train de se noyer, pour les ramener à un port sûr. Au-delà, ça ne nous concerne pas. Nos trois missions, c'est sauver, protéger une fois qu'ils sont sur le bateau et témoigner. C'est un peu ce que je fais en ce moment.
Alors, bien sûr, il vous faut pour cela des moyens financiers, mais il y a quelque chose qui s'est passé récemment, qui a été dénoncé d'ailleurs par TV5 Monde et par France 24, c'est qu'on a aujourd'hui ce drame dont on a un petit peu évoqué avec Yann Kouba. Il est en train aussi de se développer, c'est-à-dire que non seulement les passeurs rejettent les gens pour traverser la Méditerranée, mais maintenant que les choses sont surveillées, parce qu'il y a quand même de plus en plus de surveillance aérienne et par la mer de ces mouvements, eh bien, ils commencent à les rejeter directement dans le désert. C'est ainsi qu'on a vu un abandon récemment des milliers de migrants qui étaient à Samaka, une ville donc de la région d'Agadez, qui finalement sont repartis. On les a renvoyés sans eau, sans boussole.
Ils ont créé une république
on les a renvoyés dans l'immensité de sable sans qu'ils sachent où aller. Donc, non seulement on meurt en Méditerranée, mais aussi on meurt dans le désert. Alors, comment vous allez maintenant faire pour réagir à tout cela? D'autant qu'on a vu même, les gens de Ocean Viking prennent des risques réels. Avec ce qui s'est passé pendant ce week-end.
Ils ont essuyé des tirs de la part des gardes-côtes libyens. Ils ont dû partir en toute vitesse parce que, et malheureusement, il y avait un sauvetage à faire. Du coup, les Libyens ont récupéré les gens et ils les ramènent en Libye. Parfois, il arrive que des gens sautent du bateau parce qu'ils préfèrent encore mourir noyés que de retourner en Libye.
Et parce que souvent, ils sont restés en Libye quelque temps emprisonnés.
C'est ça. Et puis torturés, violés, etc. Quoi. C'est ce qui se passe en Libye, c'est horrible. Alors pareil, c'est comme pour l'Italie. Je ne vais pas faire une généralité sur la Libye. Mais on sait que depuis que Kadhafi a été assassiné, c'est le chaos total. Il y a le colonel Haftar d'un côté, un prétendu gouvernement de l'autre côté, mais les deux s'affrontent et finalement, c'est d'ailleurs pour ça que les gens partent de Libye, parce que ça n'est pas géré. Quoi. Donc on peut plus facilement partir de Libye que d'autres endroits.
Alors, merci Monique de nous avoir accordé un petit peu de temps. Finalement, on a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire sur SOS Méditerranée. Je vais redonner le contact de SOS Méditerranée Héros.
Oui, parce que, juste, j'ai ajouté, nous, on fonctionne grâce aux dons privés en général, les dons des citoyens. 90% des dons que nous avons, ça vient de vous, des personnes lambda. Donc, et puis pour le bateau, à un moment, il nous fallait 14 000 euros. Maintenant, ça s'est presque doublé parce qu'il y a eu la crise du fait de la guerre en Ukraine. Donc, le fuel est beaucoup plus cher. Mélanie nous donne des ports de plus en plus lointains. Mais on va jusqu'au nord de l'Italie, donc ça fait plusieurs jours de plus avec les gens sur le bateau qu'il faut nourrir et tout. Donc on en est presque à plus de 20 000 euros dont on a besoin. Donc si vous pouvez, aidez-nous, c'est très important.
Alors, les dons, il faut les envoyer où ?
C'est très facile de trouver sur le site des SOS Méditerranée. On peut payer en une fois, on peut se faire mensualiser. Si on est sur Facebook et qu'on a un anniversaire, on peut demander une collecte pour son anniversaire. Il y a mille moyens. Si vous avez un don quelconque, vous pouvez offrir un concert, des peintures. Il y a mille façons d'aider, mais on en a vraiment, vraiment besoin.
Et pour vous, c'est une action citoyenne, de base.
Totalement, totalement. Ces gens-là, ce sont des gens comme nous. Je ne vois pas pourquoi on les refuserait. Pourquoi ? Parce qu'ils viennent d'Afrique ? Je vais terminer par un petit témoignage. Il s'agit d'Esther, 17 ans, qui vient du Ghana. Je ne savais rien des bateaux qui partaient pour l'Europe, car j'étais venue en Libye pour travailler. Mais une nuit, une bombe a été lancée sur la maison où je vivais, et des hommes sont venus nous prendre pour nous amener à l'endroit d'où les bateaux partent. C'était la nuit, et je ne voyais rien, sauf le bateau pneumatique blanc dans lequel nous étions. Je me souviens qu'il y avait beaucoup d'autres filles avec moi. Je n'ai payé pour rien, je n'avais pas d'argent. La femme arabe pour qui j'avais travaillé en Libye avait dû payer pour mon voyage. J'ai demandé où nous allions et ils m'ont dit qu'on allait en Europe. Au début, je n'avais pas peur car je ne pouvais rien voir. Mais quand le soleil s'est levé, j'ai été terrifiée de me retrouver au milieu de la mer. J'ai vu les autres pleurer, vomir, prier. Je n'ai pas bougé. Je voulais pleurer, mais j'avais trop peur de tomber à l'eau. J'étais paralysée par la peur.
Alors, je vous invite également, bien sûr, à revoir l'œuvre de Yankuba Djabi sur Internet. Et puis de voir, si vous le pouvez, le documentaire Thilo Kotto.
Thilo Kotto va passer le 15 avril et peut-être le 16 au Sémaphore de Nîmes, si vous voulez le voir.
D'accord. Donc, répétez la date.
Le 15 avril. Et peut-être aussi le 16, donc Sémaphore à Nîmes.
Très bien. Alors nous,
à 11h.
À 11h. Donc on va se retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode de Nous n'avons qu'une terre. Au revoir Monique.
Au revoir.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés. On parle d'apocalypse, on parle de... Non, mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.